Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Que s'est-il passé en Iran ces derniers jours? On sait les manifestations, bien sûr, on sait leur répression, on sait qu'il y a eu des morts, de très nombreuses arrestations. Mais le pouvoir a tout fait pour que cette irruption de colère reste à huis clos. Alors que s'est-il passé? Qu'annonce surtout cette éruption de colère, on va dire, une révolte économique qui sonne aussi comme une révolte politique, et on y vient tout de suite. Le bruit du monde est au Burkina Faso quand les djihadistes, pour leur profit, attisent et même provoquent les animosités ethniques. Le bruit du monde, la suite, c'est Amélie Perrier qui nous racontera qu'aux Philippines, on se fait arrêter désormais si on vapote dans la rue. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, Angélique Bouin, depuis le congrès de la droite européenne, vous montrera que les intentions vertes se noient parfois dans le bleu de la droite européenne. 18h55, le monde à l'envers et Cyril Sauvageau, ou comment l'interventionnisme américain de Hong Kong jusqu'à Téhéran tient justement et parfois totalement contre-productif. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Mariam Pirzadeh.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste pour France 24, vous avez été correspondante en Iran. Alors les autorités iraniennes ont tout fait pour couper les communications, Internet évidemment en particulier. Donc c'est difficile de savoir réellement ce qui s'est passé ces derniers jours depuis vendredi et ce qui se passe encore. Qu'est-ce que vous savez, vous? Qu'est-ce qu'on peut dire du nombre de manifestations, d'abord, de manifestants aussi exactement, du nombre de morts également? Le nombre d'arrestations, c'est même l'Iran qui les donne et qui parle d'un bon millier. Et sinon, pour le reste, qu'est-ce qu'on sait, en fait, de ce moment-là?
Parce que justement, on a des chiffres qui sont donnés uniquement par le gouvernement. On sait que 87 000 personnes ont pris part à ces manifestations, 1 000 arrestations et officiellement un bilan de 5 morts, alors qu'Amnesty en annonce beaucoup plus.
Mais ça veut dire même que les 87 000 pourraient être multipliés par 2 ou par 3, puisque ce sont les autorités qui l'amènent?
Je pense que c'est beaucoup plus. Internet est totalement coupé depuis samedi soir, donc on doit passer des coups de téléphone via les téléphones portables. Moi, j'essaie de garder, je garde contact avec mes proches sur place. Certains n'osent pas vraiment parler de la situation à bâton rompu. Et puis, j'ai parlé avec des contacts ces dernières heures qui me disent qu'à Téhéran, c'est calme depuis au moins 3 jours, que la vie est redevenue normale, que les restaurants sont pleins, mais qu'effectivement, les manifestations se concentrent surtout dans le sud, dans les régions kurdes, dans les villes très touristiques d'Ispahan et de Shiraz. Là, Internet commence tout doucement à reprendre. Donc, il y a quelques vidéos qui ont été postées. On voit cette vidéo terrible dans la ville d'Avaz, qui est à la frontière avec l'Irak. On voit ces Basiji, donc ces hommes en noir, qui coursent les manifestants. Et on entend le bruit des balles réelles. Donc, effectivement, c'est une répression à huis clos qui est en train de se jouer. Et le bilan va être très lourd, je pense.
Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette contestation a été douchée, a été fauchée par la répression du régime, ou est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle bouge encore?
Elle existe encore. L'Iran, c'est une cocotte minute. Moi, je ne suis pas surprise de ce mouvement. Je l'ai vu venir. Je suis surprise que ce mouvement n'arrive que maintenant. Les dernières fois, je suis allée en Iran, parce que maintenant, je n'y vais plus. Il y avait vraiment un ras-le-bol sur l'inflation. Les Iraniens se plaignaient. Je ne parle pas uniquement des classes populaires, je parle aussi des classes moyennes qui sont touchées, et même les classes les plus aisées. C'est-à-dire que les produits de première nécessité, je pense notamment à la viande, parce que pour moi c'est le meilleur exemple, a été multiplié par 4. Donc il y a des familles maintenant qui ne peuvent plus s'acheter de viande comme c'était le cas avant. Sauf qu'effectivement, dans l'esprit des Iraniens, c'était lié aux sanctions américaines, puisque Donald Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire il y a un an et demi, et il a remis des sanctions, et ce qui a plongé le pays dans une forte inflation, dans une forte récession. Sauf que cette hausse qui est due à la fin de subventions données par l'État a été décidé par le gouvernement, par le président réformateur Hassan Rouhani. Les Iraniens avaient confiance en Hassan Rouhani parce qu'ils pensaient qu'il allait changer les choses.
Donc ça veut dire que parce que l'irruption, ça a été effectivement l'augmentation du prix de l'essence qui a été multipliée par 2. L'essence qui est très basse effectivement
des plus bons marchés du monde.
Et vous le disiez effectivement, ultra subventionné par les autorités iraniennes. Mais ce qui est intéressant, vous allez m'arrêter si je me trompe, effectivement dans la rue, dans les manifestations précédentes, on voit des drapeaux, on brûle des drapeaux américains, il y a beaucoup de choses comme ça. Là, est-ce que je me trompe ou on n'a pas vu ça, en fait, du tout?
Alors là, vous parlez de manifestations gouvernementales. C'est des manifestations qui sont orchestrées par les autorités iraniennes, par les autorités de la République islamique, avec les conservateurs qui descendent dans la rue et qui chantent « À mort les États-Unis »,
oui,
la révolution islamique. Là, ce sont les personnes qui descendent dans la rue, ce sont des classes moyennes, ce sont des classes populaires,
oui, c'est ça, justement.
Des gens qui étouffent économiquement.
Et voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que pour une fois, y compris sur l'essence, c'est pas sur le dos des sanctions, pas sur le dos des Américains qu'on les met. On voit pas ces images qu'on pouvait voir précédemment dans d'autres manifestations.
Exactement. C'était un mouvement économique à la base qui est très vite a pris une tournure politique. C'est-à-dire qu'on a entendu des slogans très rapidement à mort le dictateur, des portraits du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, qui est la plus haute autorité de l'État, brûlé. En Iran, on ne peut pas toucher au guide suprême. On ne peut pas critiquer le guide suprême. Donc effectivement, on entend des slogans qui sont très politiques, qui sont très anti-système de la République islamique. C'est là la République islamique qui est remise en cause par la population.
Et Mariam Pirzadeh, si la réponse est si violente, c'est parce que c'est un signe de panique quand même ou pas ? Est-ce que ça leur fait peur ? Parce qu'il y a eu des manifestations à peu près similaires pour des raisons similaires en 2017-2018 qui ne sont pas terminées comme ça.
Moi j'y étais en 2017, je les ai vues ces manifestations. Je vais vous dire aussi une chose, quand on est journaliste là-bas, on n'a pas le droit de couvrir ces manifestations. Donc là les journalistes iraniens, parce qu'il y a très peu de journalistes, il n'y a pratiquement plus de journalistes étrangers en Iran, et les journalistes iraniens ne peuvent pas couvrir ces manifestations, donc on ne sait pas ce qui se passe. Donc effectivement, là, si Internet est coupé, ça veut bien dire qu'il y a une crainte, une crainte des autorités que ce mouvement déborde.
Est-ce que vous avez le sentiment que ces contestations peuvent ressembler à celles de 2009, par exemple ? Est-ce qu'on est dans un état d'esprit ? On était dans un autre Iran en 2009, hein, réellement. On était dans l'Iran d'Ahmadinejad, c'était vraiment autre chose, mais est-ce que la colère et l'envie de changer, en tout cas, peut ressembler à ça ou pas du tout ?
Il y a des similitudes. En 2009, vous l'avez dit, c'était contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. 3 millions de personnes à Téhéran. Là, Téhéran n'a pas été très touché par ces manifestations. C'est surtout la province et les petites villes de province qui ont été touchées par ces manifestations. En 2009, c'était les partisans des réformateurs qui étaient dans la rue. En 2017, c'était les partisans d'Ahmadinejad. Vous savez, cette subvention qui a été annulée, c'est une décision, cette subvention elle a été mise en place par Ahmadinejad. Donc on voit bien que en 2009, il y avait un leader, il y avait un slogan, une demande. Là, les demandes sont complètement disparates. Il y a une violence extrême. Je crois que ces manifestations à l'heure actuelle sont les plus violentes qu'ait connues l'Iran en 40 ans de République islamique. On voit des bâtiments qui ont été brûlés. Ça témoigne de la violence de la violence, de la colère des Iraniens à l'heure actuelle avec cette vie qui explose et une impossibilité de voyager parce que maintenant la monnaie est devenue tellement chère que c'est très compliqué de voyager, c'est très compliqué d'accéder à des denrées, c'est très compliqué de vivre comme ils vivaient. Donc c'est une colère qui est latente mais qui est réprimée et les Iraniens le savent que de toute façon lorsqu'ils sortent manifester dans la rue la répression va être féroce.
Il y a d'autres slogans qu'on entend et qui sont intéressants sans entendre, qui disent notamment de ce qu'on en sait, laissez tomber l'Irak, occupez-vous des Iraniens. Comme si là aussi, le discours iranien, de la grandeur iranienne, etc., tout ça ne passait pas du tout désormais auprès de cette population-là. L'argent qui est mis en Irak, on le sait, l'influence de l'Iran en Irak, évidemment, on la connaît. La réponse aujourd'hui, c'est nous, c'est pas ça qui nous fait manger, en fait. Et ça aussi, c'est assez nouveau, finalement, dans le discours des Iraniens de la rue, ou pas ?
On l'entendait déjà effectivement en 2017. Je pense que les Iraniens, avant qu'ils soient totalement coupés du monde, sont la population la plus connectée du Moyen-Orient. Donc ils ont vu ce qu'il se passe au Liban, ont vu ce qui se passe en Irak. Est-ce que ça leur a donné la force de descendre même dans la rue ? Lorsque j'étais correspondante en Iran, lorsqu'il y avait des manifestations en faveur de la Palestine, on était à chaque fois surpris de voir qu'il y avait très peu de personnes qui sortaient dans la rue. Parce qu'effectivement, l'Iran est un pays riche, très riche. Il y a les deuxièmes réserves de pétrole au monde, les deuxièmes réserves de gaz au monde, les quatrièmes réserves de pétrole. Il y a de l'or, il y a de l'uranium. L'Iranien le sait que son pays est riche et il voit que finalement l'argent va à l'étranger, qu'il y a des quartiers entiers du sud de l'Iran qui ont été touchés par la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1990 qui n'ont pas été reconstruits et que effectivement des bastions du Hezbollah au Liban sont reconstruits. Donc effectivement, l'Iranien fait la corrélation. Pourquoi le citoyen ordinaire ne reçoit pas l'argent de son pays. Il y a effectivement une vraie remise en cause de la politique régionale de l'Iran.
Alors, remise en cause même au sens régional, j'allais dire, puisqu'on entend les Irakiens protester contre l'influence et même la chape de plomb, la main de mise de l'Iran. On entend même au Liban des manifestations contre le Hezbollah, ce qui est quand même, ce qui n'a pas toujours été le cas, on va le dire comme ça. Donc on entend cette crainte de contagion. Est-ce qu'il y a des contacts entre les Iraniens et les Irakiens ? Moi, j'ai cru lire ici et là qu'on avait réussi à faire passer quelques vidéos et que les Irakiens montraient les vidéos de ce qui se passait en Iran. Est-ce qu'on sait si ces deux manifestations, c'est compliqué à comparer pour l'instant évidemment, se parlent ?
C'est très compliqué à savoir. Ce qui est surprenant aussi dans le mouvement en Irak, qui le sud est touché, notamment les villes saintes de Karbala et de Najaf. Lorsqu'on va à Najaf et à Karbala, on entend parler persan partout. On peut même payer avec la monnaie iranienne. Les gardiens de la révolution sont partout sur place. Et là, les consulats iraniens sont attaqués. Donc, est-ce qu'il y a des similitudes ? Oui, parce que les Irakiens manifestent contre la corruption dans leur pays. Les Iraniens manifestent aussi contre la corruption dans leur pays. Parce que la corruption, elle est très présente en Iran. Beaucoup de népotisme aussi. Donc il y a des similitudes. Est-ce que les deux mouvements se parlent ? Là, l'Iran reste coupé du monde. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'échanges, en tout cas sur Internet.
Quel est le regard ? On parlait du regard des Iraniens sur l'Irak et aussi sur le rôle de l'Iran au Liban. Qu'est-ce qu'ils disent de la bataille nucléaire qui se joue en ce moment, par exemple ? Est-ce que là aussi, l'Iranien de la rue se dit tout cet argent dépensé dans cette bataille avec les États-Unis, le retour des infrastructures, est-ce que tout ça est bien nécessaire ou est-ce qu'au contraire c'est encore une autre histoire ?
C'est un sentiment ambivalent. L'Iranien est très nationaliste. Donc pour lui, effectivement, avoir le nucléaire, pourquoi nous on n'a pas le droit d'avoir le nucléaire alors qu'effectivement Israël ou le Pakistan a la bombe ? Mais je vais vous dire là, le nucléaire c'est le cadet des soucis des Iraniens qui sont, il y a un taux de chômage exponentiel, une inflation, je vous le disais, très forte. Donc là, le nucléaire, et d'ailleurs Donald Trump, on ne critique pas, c'est le gouvernement qui attaque Donald Trump. Mais l'Iranien de la rue ne va pas blâmer forcément Donald Trump pour la vie quotidienne qu'il vit depuis un an et demi, depuis avant même.
Est-ce que, en revanche, les Américains, selon vous, mettent de l'huile sur le feu ? Alors, on voit bien les attaques qui ont été faites. On voit Pompeo qui tweet, mine de rien, pour soutenir la rue.
Mais la rue lui a répondu parce que lorsque Pompeo dit je suis avec vous, il faut quand même rappeler que les Iraniens font partie du Muslim Ban, sachant que la plus forte diaspora iranienne se trouve aux États-Unis. Il y a des millions d'Iraniens qui ne peuvent pas depuis plus de 2 ans aller voir leur famille aux États-Unis. Donc ils ont répondu avec beaucoup d'ironie à ça en disant vous nous empêchez d'aller voir nos proches aux États-Unis et en plus vous nous imposez des sanctions qui nous étouffent économiquement. Donc il a été il n'a pas vraiment d'écho.
En revanche, ils peuvent exploiter cette dissidence.
C'est exactement ce que veut Donald Trump. En mettant cette pression maximale sur l'économie iranienne, parce que finalement, ce n'est pas les gardiens de la révolution qui ont cette pression maximale, c'est surtout la population, les citoyens iraniens, c'est de pousser les Iraniens à se rebeller contre leur gouvernement. Sauf que ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, puisque là, ce n'est pas les sanctions économiques qui ont poussé les Iraniens à sortir dans la rue, c'est la fin de cette subvention du prix à la pompe.
Contestation à huis clos, on le disait, donc réprimée à huis clos aussi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une escalade est possible, qu'une suite est possible, que quelque chose de différent, encore une fois, qui ressemblerait au fond aux révolutions des voisins, c'est toujours très compliqué de faire des comparaisons, mais est en train de se passer en tout cas en Iran aujourd'hui.
Alors plusieurs personnes en Iran m'ont dit, tu sais, ça va se passer comme d'habitude, ça va se tarir parce qu'il va y avoir beaucoup de morts. Je pense que ce mouvement, en fait il y a la diaspora iranienne qui espère que ce mouvement va mener à une révolution et qui pousse en ce sens, mais il y a la réalité de la rue qui fait que la répression elle est extrêmement forte. Quand on parlait de 1000 arrestations, je pense que on peut multiplier ce chiffre par au moins 4. Donc non, je pense que ce mouvement, comme en 2017-2018, va se tarir. Sachant que ce matin, la télévision iranienne a annoncé que le gouvernement avait versé de l'argent sur les comptes bancaires de 20 millions d'Iraniens, donc les familles les plus pauvres.
C'est ce qu'ils avaient promis. C'est ce qu'ils avaient promis avec l'augmentation du prix de l'essence.
Pour compenser cette augmentation de l'essence. Mais c'est une augmentation de 15 euros pour des familles de 5 personnes, quand on sait que... Enfin, c'est rien, 15 euros pour une famille de 5 personnes, pour faire vivre une famille et pour compenser. L'essence est capitale en Iran. Vous savez, la voiture, c'est devenu une deuxième maison pour les Iraniens. L'essence est pas chère.
Un deuxième boulot aussi pour
Exactement. Mais les Iraniens ont des fois 2-3 boulots. À la fin, ils sortent de l'usine, ils prennent leur voiture et ils vont faire ce qu'on appelle le SNAP, donc le VTC, et ils prennent des personnes et ils travaillent jusqu'au milieu de la nuit. Donc, ce prix de l'essence qui augmente, c'est leur vie qui est remise en cause aussi. Et leurs revenus. Donc, et surtout, vraiment, comme il y a des choses à faire en Iran, mais souvent, on va faire des balades en voiture, parce qu'ils profitent de cette essence pas chère. Donc, c'est surtout pour ça qu'ils sont sortis dans la rue.
En tout cas, on regarde avec beaucoup d'attention à la fois l'Iran et tous les voisins en ce moment. Myriam Pirzadeh, journaliste pour France 24. Merci mille fois de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Sintès, sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe au Burkina Faso, alors qu'on a parlé sécurité et terrorisme pendant tout le début de la semaine à Dakar. Le Burkina, ce pays que les djihadistes espèrent plonger dans une guerre ethnique dont ils bénéficieront. Le bruit du monde, la suite, c'est vous, Amélie Perrier. On ne vapote plus du tout aux Philippines, apparemment.
Ah non, puis c'est très sérieux, vous risquez de vous faire arrêter par la police.
Et on voit ça dans un instant. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, avec Angélique Boin qui est au congrès de la droite européenne. Vous verrez que les promesses vertes font long feu. Le monde à l'envers et Cyril Sauvageau, bonsoir à vous Cyril.
Bonsoir.
L'Amérique, tiens, on en parlait finalement à l'instant. Quand elle est interventionniste, elle se tire parfois une balle dans le pied, en gros.
Oui, la diplomatie américaine est de moins en moins audible et compréhensible et ses résultats, on va dire, de plus en plus mitigés.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Austin, Texas. On aime bien les Black Pumas sur France Inter. Fire, c'est dans la playlist. Le bruit du monde est au Burkina Faso ce soir. Alors qu'on a parlé de Sahel, de paix, de sécurité, tous début de semaine au sommet de Dakar, le Burkina est dans l'œil du cyclone djihadiste. Les attaques se multiplient, l'armée perd la main dans de nombreuses zones du pays. Elle est débordée, elle a dû déléguer l'ordre à des milices villageoises, des milices communautaires, qui quand une attaque djihadiste survient, cherchent à punir les coupables. Et souvent, ces coupables sont tout désignés, ce sont les Peuls. En janvier, dans un village du nord du pays, lors d'une chasse à l'homme, une milice serait ainsi à l'origine d'un massacre, 49 morts. Depuis, le cycle de représailles s'est multiplié, les djihadistes s'en nourrissent. Pour mieux comprendre, écoutez ce que Claude Guibal nous ramène.
Omega FM, radio citoyenne, spécialisée dans le traitement de l'information, vous plonge au cœur de l'actualité.
Voilà, madame, c'était donc le reportage de Moumouni Yaro, donc de ce grand rassemblement.
Soutenir le moral de l'armée au Burkina Faso, c'est devenu une obsession. On le voit jusqu'au t-shirt de cet homme croisé dans la rue. Dessus, il est écrit « Soutien aux forces de sécurité ». Les FDS, ces soldats, à la fois attaqués par les djihadistes, mais aussi accusés, comme les milices, d'exactions et parfois d'exécutions extrajudiciaires.
Moi, je refuse de critiquer leur façon de travailler parce que c'est eux seuls qui sont au front, qui connaissent les réalités. Qui est terroriste, qui ne l'est pas. On pense qu'un terroriste, c'est celui qui tient l'arme, qui combat. Lui, ce n'est qu'un combattant. Il y a des gens qui financent, il y a des gens qui donnent des renseignements. Peut-être que je le vois, c'est un vendeur de bœufs, c'est un vendeur de moutons. Ceux qui sont sur le terrain ont des renseignements, qui savent pourquoi ils le font.
Cette allusion glace le jeune homme avec lequel nous avons rendez-vous. Ici, au Burkina, chacun comprend. Quand on parle de vendeurs de bœufs ou de moutons, c'est une façon de désigner les peuls.
Le fait d'être peul aujourd'hui au Burkina, ce n'est pas simple. Hein, parce que nous sommes taxés de terroristes. Souvent, il faut se cacher. Si tu es repéré par les terroristes, tu seras abattu. Si tu es repéré par l'armée, même si on ne t'abat pas, tu seras torturé. Le fait de vivre même, c'est compliqué.
Les djihadistes ont enclenché des cycles de représailles communautaires en jouant sur les antagonismes ancestraux qui opposent ceux qui se partagent les zones rurales, les cultivateurs sédentaires, les peuls nomades dont les troupeaux sont souvent accusés de détruire les récoltes des cultivateurs sur leur passage. Un ferment de ressentiment sur lequel les djihadistes ont su jouer pour instrumentaliser la colère.
Certes, il y a des conflits, mais ces conflits entre éleveurs et agriculteurs, ça ne date pas de maintenant. Ça peut être un alibi. Mais le comble, c'est quoi? Quand un seul peuple, par exemple, sa vache est partie détruire quelque chose, au lieu de s'en prendre à cette personne, on s'en prend à toute la communauté peuple dans la localité. Il y a eu plusieurs cas, hein, dans plusieurs localités. Ils ont tué des peuples comme ça souvent, mais des gens même qui ont vécu pendant longtemps, on les chasse. C'est comme si on n'était considéré pas comme citoyen de ce pays.
Ce ressenti fait de la jeunesse peule un vivier de prédilection pour les groupes djihadistes qui cherchent à recruter. Boubacar Diallo est le chef des Rouga, les éleveurs du Burkina, lui-même est peule. Conscient du problème, il fait de la prévention auprès des jeunes bergers peules dans les zones de transhumance pour les pousser à collaborer avec les FDS, les forces de sécurité, pour dénoncer les terroristes.
La plupart, ils sont analphabètes. C'est des gens qui sont en brousse.
Comment vous faites? Qu'est-ce que vous leur dites?
Ben, nous leur tenons un langage de vérité. C'est de leur dire, si tu es dedans, il faut sortir. Si tu ne peux pas sortir, il faut quitter le pays. Sinon, nous, on va te remettre au FDS. Généralement, les gens se disent, non, on ne les connaît pas, on les voit, mais on ne peut pas. Parfois, on a peur de dire, parce que si on les dit, ils nous disent que si nous disons, ils vont nous tuer. Donc, vous voyez, c'est pourquoi nous allons vers eux, pour leur dire non. Ils ne peuvent pas savoir si vous avez donné l'information au FDS. C'est pas vrai.
Mais la défiance envers les forces de sécurité est bien là, car dans ces zones rurales, l'État, absent du développement, ne montre sa présence qu'à travers sa réponse sécuritaire, souvent violente et sans nuance. Ce vieil homme que nous présente Daouda Diallo, du collectif contre la stigmatisation des minorités, en sait quelque chose. Son regard est figé. Il se souvient de ce jour où il a vu des hommes en uniforme arriver dans son village où était accueillie une partie de la population du Yergou qui avait fui après le massacre mené par les milices contre les peuls. Tous les hommes peuls du village, dit-il, ont été arrêtés, tabassés. Plus d'une dizaine, dit-il, en sont morts.
Il dit que depuis que lui il a vu ce massacre, depuis ce jour, il ne dort plus dans sa maison. Et parce que à tout moment, on peut venir te prendre dans ta maison et puis t'exécuter.
Au Burkina, le pays des hommes intègres, la majorité de la population essaie encore de préserver le vivre ensemble, jadis si emblématique du pays. Mais ici, comme au Mali, l'embryon d'une guerre ethnique n'est pas très loin et chacun craint le prochain incident qui pourrait embraser le pays.
Claude Guibal au Burkina pour Le Bruit du Monde. Merci beaucoup. Le Bruit du Monde, la suite, c'est Amélie Perrier, sous les radars. Alors, on n'est pas à l'hôpital, hein. Ce sont des gens qui vapotent.
Et c'est
en
ça.
Réalité, ça se passe aux Philippines avec le président Duterte, donc qui a encore frappé.
Vous savez, c'est celui qui présente l'homosexualité comme une maladie ou qui s'était comparé à Hitler pour justifier ses méthodes radicales contre les criminels et surtout les trafiquants de drogue. Il les a fait tuer par milliers. Aujourd'hui, le président Duterte a un nouveau combat, donc.
Smoking is dangerous.
Fumer est dangereux, dit le président Duterte. Donc vapoter est aussi dangereux, alors je l'interdis. Si vous fumez à partir de maintenant, vous serez arrêté. Le mois sans tabac s'annonce bien suivi donc aux Philippines. Les policiers vont devoir arrêter les vapoteurs et confisquer les cigarettes électroniques accusées de diffuser des produits chimiques dans le corps. Rodrigo Duterte est un ancien fumeur, ce sont les pires paraît-il. Il a déjà durci les interdictions du tabac dans les lieux publics. En tout cas aujourd'hui, sa santé est un sujet. Il vient d'annoncer qu'il souffrait d'une myasthénie, une maladie auto-immune. Mais au-delà des Philippines et de son président particulier, la cigarette électronique est un sujet de préoccupation dans de nombreux pays. Rodrigo Duterte se réfère aux autorités de santé américaines qui qualifient la cigarette électronique de dangereuse. L'Inde vient également d'interdire l'importation, la production et la vente des cigarettes électroniques. Interdite également au Brésil, à Singapour et en Thaïlande.
Voilà, il y a des pays là-dedans qui sont aussi producteurs de tabac, ceci expliquant cela. La mairie de Prague prend un engagement lourd de sens et d'histoire.
La capitale de la République tchèque s'engage à rendre à la communauté juive tous les pavés des rues qui ont été fabriqués à partir des pierres tombales d'anciens cimetières juifs. En fait, sous le communisme et jusqu'à la fin des années 80, des tombes ont été découpées en morceaux après avoir été récupérées dans des cimetières hébraïques un peu partout dans le pays. Aujourd'hui, des rues piétonnes de Prague et même la célèbre place Venceslav sont recouvertes de ces pavés. Or, la communauté juive actuelle, 8000 membres contre 350 000 avant le nazisme, cette communauté juive a souhaité un accord avant le début des grands travaux sur cette place Venceslas pour les nouvelles lignes de tramway. Écoutez le président de la communauté juive de Prague, il s'appelle František Baňaj.
En supposant que nous trouvions des pavés de ce genre, il faudra d'abord établir combien il en existe et quelles informations nous pouvons retrouver à leur sujet. Dans tous les cas, nous voulons les réinstaller dans le vieux cimetière juif du quartier de Žižkov à Prague.
Le président de la communauté juive de Prague, interrogé par Radio Prague International. Ce cimetière dont il parle, il a été transformé en jardin public. Seule la partie la plus ancienne et les tombes des personnes les plus connues ont été préservées, comme une partie de l'histoire que l'on a voulu effacer et que l'on veut réinscrire dans le paysage de Prague aujourd'hui.
Elle est des militants très poétiques au Royaume-Uni.
Les activistes de l'association BP, or not BP, vous aurez saisi la référence shakespearienne. Leur spécialité, ce sont les irruptions dans les institutions culturelles pour dénoncer le mécénat des compagnies pétrolières au British Museum, surtout comme ils l'ont fait mardi soir. We foresee the fall of BP. Nous prévoyons la chute de BP, le groupe pétrolier. Les militants se sont grimés en statues antiques, en dieux grecs, et l'un d'entre eux, surnommé Petroleus, a aspergé les autres d'un liquide noir comme de l'hydrocarbure. BP finance en fait par le mécénat le British Museum et la nouvelle exposition sur Troyes. Et selon l'ONG, l'entreprise sponsorise le musée pour avoir l'air généreux et intéressé par la culture, mais en réalité c'est pour détourner l'attention des investissements sur les combustibles fossiles nuisibles à l'environnement. Un mécénat comme un cheval de Troie, ironique, disent-ils. C'est d'ailleurs leur futur projet à ces militants de construire un cheval de Troie pour faire le siège du British Museum. Les militants ont déjà quelques victoires à leur actif. Ils ont convaincu la Royal Shakespeare Company, la grande compagnie de théâtre dans la ville natale du célèbre dramaturge, de renoncer au financement de BP. Dans la foulée, les Galeries Nationales d'Écosse ont également rompu avec BP. Prochaine cible, le Royal Opera House, la National Portrait Gallery. Et en France, il faut noter qu'il y a un collectif qui est baptisé Libérons le Louvre, qui suit le même chemin contre le mécénat de Total au Louvre.
Allez, merci beaucoup. Amélie Perrier sous les radars, à très vite. Évidemment, voici Moriarty sur France Inter. Long Live the Devil. The Devil Moriarty sur France Inter. Angélique Boin nous attend, figurez-vous, qui est venue vous parler de quoi ?
France Inter.
Je suis venu vous parler de
The European Union général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes ? C'est chaque jeudi dans Un jour dans le monde. Et bonjour Angélique Boin.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Angélique, vous êtes à Zagreb, où se tient depuis hier le congrès de la droite européenne.
Oui, c'est la réunion de famille du Parti Populaire Européen, le PPE, qui s'est donc tenue depuis deux jours dans une immense salle qui ressemble un peu aux élites de Paris, avec les délégations de 84 partis de droite et du centre droit. Une grande messe hein, qui ressemblait par moments à un show à l'américaine. Alors on a vu sur le podium la future patronne de l'Europe, Ursula von der Leyen, Angela Merkel ou encore Michel Barnier, tous membres du PPE. Pour la France, ce sont les élus LR qui sont ici et c'est un congrès pour élire le nouveau président de ce parti. L'heureux élu est Donald Tusk, élu hier soir avec 93% des voix, un score soviétique. Hein, mais il faut dire qu'il était le seul candidat.
Voilà, qui est plus simple. Alors ce qui vous a frappé, Angélique, c'est le slogan du congrès.
Oui, une Europe, notre planète, votre parti, rien de neuf sous le soleil. La droite européenne a elle aussi verdi son discours et pris conscience de l'urgence climatique. Et Ursula von der Leyen, on le rappelle, a mis comme priorité de sa future commission le Green Deal, ce vaste programme de lutte contre le réchauffement climatique. Mais quand on gratte un peu le vernis, eh bien, il ne faut pas croire qu'elle aura sur le sujet un soutien sans faille des eurodéputés de son propre parti. Écoutez cet extrait de la conférence de presse de Joseph Daul, c'est l'ex-président du PPE qui a donc passer le relais à Donald Tusk. C'est un Français, ex-élu rural en Alsace, un homme peu médiatique mais proche d'Angela Merkel et c'est important, hein, qui a été très influent au sein du PPE ces dernières années.
Nous devons continuer à un discours honnête. Prenons simplement le changement climatique. Il faut maintenant qu'on soit honnête avec nos gens et qu'on puisse leur dire voilà le coût. Et quand vous demandez à tous ces responsables, même ces chefs d'État et de gouvernement, qu'il faut tout changer, ils ne savent pas où on va. Comment nous allons faire ? Je ne sais pas si c'est la bonne solution dans notre monde rural ou dans ma commune. Le matin, les agriculteurs qui ont une pension de 800 à 1000 euros par mois, de leur dire qu'il faut changer les voitures. On va changer tous les chauffages et tout ça. Ok, je suis le premier d'accord. Qui paye ?
Joseph Daul qui a ensuite interpellé l'ex-chancelier autrichien Sébastien Kurz en lui demandant de ne pas trop se verdir. Garde un peu de bleu, c'est la couleur de la droite, lui a-t-il lancé publiquement. Tandis que Donald Tusk, eh bien, dans son discours de candidature, ira tout simplement zapper le sujet, pas un mot sur le climat.
Donc on a bien compris, un slogan sur les affiches, Angélique, mais pas une unanimité nette sur le sujet.
Alors en fait, la droite européenne s'en est saisie, bien sûr, et s'engage. Mais ce matin, par exemple, les délégués ont voté assez mollement, je dois dire, une résolution sur le climat qui soutient l'objectif d'une neutralité carbone d'ici 2050. Pas question pour nous, par exemple, d'accepter des mesures réglementaires venues d'en haut, dit l'eurodéputé allemand Andreas Schwab. Il faut que ça vienne des entreprises, des citoyens, des syndicats, mais pas des États, ni de l'Union européenne. Nous voulons une écologie pragmatique, dit de son côté le français François-Xavier Bellamy. Notre ambition écologique doit se gérer dans un environnement favorable à l'entrepreneuriat, en particulier pour les PME, leur a promis à la tribune Ursula von der Leyen, dans un discours très applaudi, qui se voulait très consensuel. Mais dans les allées, il se murmure ici que si son futur bras droit, au sein de la Commission, le social-démocrate Frans Timmermans, en charge de la lutte contre le réchauffement, avait dans l'idée de faire de Greta Thunberg l'égérie européenne du climat, eh bien, il trouvera sans doute sur sa route la droite européenne. Ce n'est pas une gamine de 16 ans qui va nous donner une ligne politique, ronchonnent certains élus. Les débats qui reprendront la semaine prochaine à Strasbourg sur le sujet ne devraient pas manquer de piquant.
Oh là, on a compris que ce n'était pas gagné. Angélique Boin avec nous en direct de Zagreb ce soir. Merci beaucoup Angélique.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Cyril Sauvageau. Ce soir, Cyril, l'interventionnisme américain est de plus en plus contre-productif, dites-vous. De Hong Kong jusqu'à l'Iran, où nous étions tout à l'heure, en passant par le Venezuela, les prises de position internationales de Washington ces derniers mois, ces dernières années, servent rarement la cause que les États-Unis entendent défendre. Et bien au contraire, en fait.
La voix de l'Amérique n'est plus audible. Ce n'est pas qu'une formule, c'est de plus en plus une réalité diplomatique. Prenez par exemple la crise à Hong Kong. Ça fait plus de 6 mois maintenant que les Hongkongais manifestent pour la démocratie, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le soutien des États-Unis aux contestataires est resté timide. Au fil des semaines, la situation sur place n'a fait que se détériorer, avec des affrontements de plus en plus incontrôlés entre les forces de l'ordre et les manifestants, chacun renvoyant sur l'autre camp la responsabilité des violences. Et face à cette situation, que font les Américains? Eh bien, rien ou presque jusqu'ici, à part des condamnations isolées. Il faut dire que Donald Trump avait un autre souci en tête ces derniers mois. Les négociations commerciales avec la Chine, il ne fallait surtout pas braquer Pékin. Washington a donc tardé à adopter une position claire sur le sujet, laissant la voie libre au régime chinois pour durcir la répression.
Alors, les choses semblent enfin bouger puisque le Sénat et la Chambre des représentants ont adopté cette semaine une résolution pour soutenir les manifestants.
C'est vrai, mais il en a fallu du temps pour que ce texte voie le jour et ce n'est pas terminé. Il doit encore être approuvé par Donald Trump. Le président américain dispose d'un droit de veto. Théoriquement, il pourrait s'y opposer. Cela dit, vu la quasi-unanimité entre républicains et démocrates sur le sujet, il devrait en toute logique le signer. Cette résolution, que dit-elle? Elle prévoit notamment de suspendre le statut économique particulier dont bénéficie l'ancienne colonie britannique vis-à-vis des États-Unis. C'est une mesure assez forte et qui suscite d'ailleurs de vives réactions à Pékin où les officiels chinois accusent Washington de vouloir détruire Hong Kong. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que tout cela arrive tard, bien trop tard, après beaucoup d'atermoiements et alors que la Chine est en train de lâcher ses coups, comme on peut le voir sur le campus assiégé de l'université polytechnique. Bref, ce soutien tardif aux manifestants pourrait bien ne pas servir à grand-chose et risque de chauffer à blanc le président chinois Xi Jinping, tenter d'asseoir son autorité de la façon la plus brutale.
Alors Cyril, autre exemple d'interventionnisme hasardeux de la part des États-Unis, l'Iran et sa sortie de l'accord sur le nucléaire.
Alors là, c'était un coup de poker de la part de Donald Trump en se retirant de cet accord longuement négocié par Barack Obama et les Européens. Le président américain pensait forcer l'Iran à tout renégocier et pourquoi pas déstabiliser le régime de Téhéran en comptant sur le ras-le-bol de la population. Mais on en parlait tout à l'heure avec votre invité, les sanctions économiques imposées par les États-Unis n'ont pas eu l'effet escompté. On est passé tout près d'un affrontement militaire dans le Golfe Persique et l'aile la plus radicale du pouvoir iranien est sortie renforcée de cette crise. Quant au président Rouhani, il n'est pas revenu à la table des négociations. En revanche, l'Iran a encore renforcé son influence régionale au Moyen-Orient au détriment de son grand rival, l'Arabie Saoudite. Bref, l'exact inverse de l'effet recherché par Washington.
Et puis, encore un coup d'épée dans l'eau, c'est le dernier, le Venezuela.
Et oui, vous vous souvenez de Juan Guaido, le président autoproclamé du Venezuela, soutenu par les Américains. Il était censé chasser du pouvoir Nicolas Maduro avec le soutien populaire des Vénézuéliens. Mais un an plus tard, la situation est totalement bloquée. Malgré la pression de Washington, le régime chaviste tient bon. Juan Guaido n'arrive plus à mobiliser les foules. La stratégie a échoué. De l'aveu même du gouvernement colombien, pourtant allié aux États-Unis dans cette affaire. On aurait aussi pu parler de la Corée du Nord, par exemple, et de négociations au point mort avec Kim Jong-un. La liste est longue, le bilan mitigé. Est-ce le fait d'un monde de plus en plus complexe et multipolaire ou bien d'une diplomatie américaine qui n'a jamais été aussi peu lisible et cohérente? On va dire qu'il y a sans doute un peu des deux.
Le monde à l'envers. Et Cyril Sauvageau, merci beaucoup. Cyril, le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Et puis juste avant, le journal de Sébastien Paour. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien.